Toutes les institutions du pouvoir dans notre société sont dirigées par les hommes, de telle manière que les hommes deviennent une sorte de classe dirigeante placée au-dessus des femmes, et c'est ce qui se passe aussi dans les ménages, où la majorité des rapports de la femme avec la société se passe à travers l'homme.
Ça, c'était un son de 71, mais on s'émancipe ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question d'émancipation, justement, d'emmurement, de Rihanna, de feuilleton, de mythes et même de football américain. Avec Céline Sciamma, qui réalise Bande de filles, un film qui s'attache à des personnages rares dans le cinéma français. Une bande de jeunes filles noires filmées sans naturalisme et avec style. Lucille Como.
Portrait d'une cinéaste qui travaille l'identité féminine à travers les différentes étapes de l'émancipation amicale et sentimentale.
19h35, plateau mythe avec Kaoutar Archie qui signe à l'origine Notre Père Obscur, un roman de l'émancipation féminine qui passe par la prise de parole d'une narratrice emmurée dans la maison des femmes, un système coercitif inventé par une société patriarcale. Lucille.
Retour sur le parcours d'une écrivaine travaillée par la sociologie et la littérature algérienne, ou comment faire de la désaffiliation un enjeu romanesque.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle avec le tout nouveau journal de la culture de Zoé Sfez. Mais jusqu'à quand ?
S'agissant de la question du différé d'indemnisation supplémentaire qui a été introduit et qui a cristallisé l'essentiel de la contestation de ces dernières semaines, nous avons dessiné, avec les deux ministres, une mesure d'apaisement. L'État s'engagera. Il prendra donc lui-même en charge ce différé, c'est-à-dire qu'il le financera pour que Pôle emploi n'ait pas à l'appliquer aux intermittents concernés.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Alors ce que l'on vient d'entendre, c'est votre son du jour et comme chaque jour, il ne date pas d'aujourd'hui.
Non, il date du mois de juin, alors que la contestation des intermittents battait son plein. Manuel Valls, Premier ministre, avait promis, vous l'avez entendu, que l'État prendrait en charge le fameux différé d'indemnisation. L'une des conséquences de cette fameuse convention du 22 mars, qui était les plus décriées par les intermittents, comme promis, ce différé a bien été neutralisé, je cite, par un décret qui paraîtra demain au journal officiel. Mais la concertation continue, je le rappelle, et les syndicats comme la CGT Spectacle, ont déjà indiqué qu'elles ne se contenteront pas de cette mesure qu'elles considèrent comme un simple toilettage.
On passe maintenant au dossier du jour avec cette découverte archéologique majeure. Un tombeau exceptionnel dont on ignore encore à qui il appartient est en train d'être mis à jour en Grèce du Nord, dans la région d'Amphipolis.
Amphipolis, une région qui a beaucoup compté dans l'histoire de la Grèce, puis ensuite dans celle des rois de Macédoine, puisqu'elle a été annexée par Philippe II et ensuite par son fils Alexandre le Grand. Dans la vallée où lieu ces fouilles en ce moment, on a déjà découvert beaucoup de tombeaux très importants, notamment celui d'un général d'Alexandre. Ces tombeaux, ils sont très identifiables parce qu'en fait, ils sont protégés par des collines artificielles. Et celle-là, c'était l'une des plus élevées de la vallée. Mais on n'avait pas encore commencé à la fouiller. Georges Vavouranakis est professeur d'archéologie à l'université d'Athènes. Il nous explique pourquoi.
On savait que c'était un tumulus, c'est-à-dire une montagne artificielle qui protège un tombeau. On savait qu'il y avait forcément quelque chose à y découvrir, mais les fouilles ont beaucoup tardé. Certainement parce qu'il y a beaucoup d'autres tombeaux dans la région, mais il y avait aussi beaucoup de pilleurs de tombes qui profitent des pauses du chantier pour se servir et revendre des pièces. Donc on avait peur qu'en démarrant des fouilles sans beaucoup de moyens, cela attire les pilleurs. Mais là, on a un chantier d'envergure internationale et qui fait l'objet de beaucoup d'attention, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour les pilleurs.
Les fouilles ont commencé cet été et depuis, tout s'accélère.
Oui, parce que les découvertes sont de la vie générale absolument uniques. Les tombes dans cette région, en général, architecturalement, elles ne sont pas très complexes, même si elles le sont assez. Souvent, au maximum, on a des ornementations en peinture. Et là, on découvre que sous la terre, donc, le tombeau est gardé par un mur d'enceinte de 470 mètres, quand même, ce n'est pas rien. Qu'il y a toute une série de salles ornées de sphinx, de cariatides. Et hier, les fouilleurs annoncent avoir mis au jour une mosaïque monumentale. Le ministère de la Culture grec communique tous les jours sur ces fouilles. Il envoie des photos par Twitter, ce qui met toute la communauté scientifique absolument en émoi avec une question, mais qui donc est enterré là-dessous ? Sophie Descamps est chef du patrimoine du département des antiquités grecques, étrusques et romaines au musée du Louvre et elle suit les fouilles de très très près.
Toute la communauté se passionne pour savoir si on pourra un jour avoir des indices sur l'occupant de la sépulture, parce que à la mort d'Alexandre, il s'est passé beaucoup de choses, et particulièrement dans cette région, il y avait et à Amphipolis, des généraux d'Alexandre, ses amiraux, qu'il y a la femme d'Alexandre, Roxane, et son fils Alexandre IV. Tous deux ont été mis à mort par le roi Cassandre. On ne sait pas qui se trouvait dans cette sépulture, et il est trop tôt pour le dire, mais déjà, tout ce qu'on découvre d'éléments absolument exceptionnels, dans le sens qu'on n'a jamais trouvé la même chose, on n'a jamais mis au jour une tombe avec un décor sculpté. On n'a jamais trouvé une mosaïque de galets à l'intérieur d'une tombe de Grèce du Nord non plus. Donc tous ces éléments vont dans le sens d'une découverte prodigieuse.
Et le meilleur dans cette affaire, c'est que ce n'est pas fini.
Et non, les fouilles ont juste dévoilé les toutes premières salles. Or, en Grèce du Nord, les rites funéraires sont assez proches de ceux des Égyptiens. Donc on s'y fait enterrer avec des offrandes. Autant dire que l'on risque de tomber sur un véritable trésor. Sophie Descamps du Musée du Louvre.
La tradition funéraire voulait que les élites et la famille royale soient entevelies avec des offrandes qui sont exceptionnelles dans tous les domaines, des vases d'argent, des vases de bronze, des meubles d'or et d'ivoire. Donc en fait, la Grèce du Nord est le réceptacle de ce que les artistes grecs, les artisans grecs faisaient de plus remarquable. Donc on ne sait pas encore, les fouilleurs vont mettre au jour des offrandes de ce type, on l'espère tous, mais déjà, architecturalement, c'est unique et prodigieux.
Voilà, alors Sophie Descamps et ses collègues devront, malgré l'excitation, prendre patience, car il pleut beaucoup en Grèce du Nord en ce moment, et que tout en creusant, les archéologues doivent consolider le tombeau. Il faudra donc attendre Noël pour savoir qui repose dans ce tombeau depuis 24 siècles.
Et tout de suite, eh bien, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec une autre découverte archéologique. Et oui, c'est la saison en ce moment, cette fois en Écosse. Un chasseur de trésors amateur a mis au jour le plus grand trésor viking découvert en Écosse. Il date du 9e siècle. On y trouve des amulettes d'Irlande, des bijoux de Scandinavie, des bijoux anglo-saxons et aussi un vase en argent carolingien.
Le prix de la langue française a été attribué à Hélène Sixous.
Ce prix qui récompense depuis 30 ans une personnalité dont l'œuvre a contribué à illustrer la qualité et la beauté de la langue française récompense donc cette essayiste, dramaturge, poétesse, par ailleurs connue pour son engagement féministe. Ses pièces de théâtre ont souvent été montées par le Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine ou par Daniel Mesguich.
Disparition de Marc Bell, l'un des pionniers de la musique électro.
Le producteur britannique avait créé avec son partenaire Guess Varley le groupe d'électro LFO qui a beaucoup marqué l'essor du genre. Il est mort des suites d'une intervention chirurgicale. Il avait ensuite travaillé en solo en tant que producteur pour des artistes comme Björk, Radiohead, Laurent Garnier ou encore Depeche Mode.
Et la dernière ?
Et l'on reste en Grèce, et oui, c'est l'histoire du deuil d'une nation, une nation rebelle, et aussi un peu Brigitte Bardot. Je vais vous expliquer pourquoi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon.
Non, je vous le confirme, ça ne veut rien dire.
La Grèce pleure depuis ce week-end celui qui fut l'une des figures les plus emblématiques des manifestations anti-austérité de ces dernières années, clairement entre 2009 et 2012. J'ai nommé Louis Kanikos, un petit chien errant qui avait clairement pris le parti des manifestants pendant les émeutes. Il avait sous les yeux des télés du monde entier montré les crocs, voire carrément mordu plusieurs policiers jusqu'au sang. Il avait été élu personnalité politique de l'année 2011 par le Times. Et d'après ce qu'indique en ce début de semaine son vétérinaire, eh bien, il est justement mort d'avoir ingéré trop de gaz lacrymo. Il s'est noyé dans ses poumons. Il est resté donc martyr jusqu'au bout.
Ouh. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Céline Sciamma, d'abord ?
Mais une actualité souterraine certaine, en tout cas.
Oui, c'est magnifique.
Ces excavations sont passionnantes. J'attends Noël avec impatience.
Ah bah moi aussi, qui est enterré dans ce fameux mausolée ? Kaoutar Archi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter ?
Une pensée émue pour ce martyr.
Hein. Ah bah oui, ça c'est...
Toujours, ouais. C'est évident.
Le gaz lacrymo tue.
Mais écoutez, le gaz lacrymo tue, non mais sans déconner, c'est vrai en plus. Ça fait
sans
très, très, ça fait très très mal aux poumons, et aux poumons d'un petit chien à fortiori. Bref, on peut s'en tenir là, je pense. Ça ira.
Ça ira comme ça.
Le rendez-vous. Rendez-vous.
Plateau bleu avec vous, Céline Sciamma, réalisatrice. Vous aviez signé un premier film très remarqué, La naissance des pieuvres. Il y a eu Tomboy. Et vous signez aujourd'hui votre troisième long métrage, Bande de filles, qui sortira en salle la semaine prochaine. C'est l'histoire de Mariem, une jeune fille noire de 16 ans qui vit en banlieue et qui se voit proposer de faire un CAP alors qu'elle veut rester en filière générale. Elle rencontre alors trois autres filles, une bande qui sort à Paris, qui se bat avec d'autres filles. Et Mariem va va devenir alors Vic, le diminutif que les filles lui choisissent, Vic comme Victoire. Le film va raconter le parcours à plusieurs identités de cette fille. Une fille d'abord sans histoire, une amoureuse, une délinquante. Alors cette bande de filles, ce sont Karidja Touré, Assa Silla, Lindsay Caramo et Marié Toutouré. On les écoute dans un extrait. Elles sont au mini-golf.
Bon, vas-y, vas-y, je te vois.
Tu fais quoi?
Tire tout droit, s'il te plaît. Tire tout droit, j'ai pas envie de filer, on va pas débattre.
Tire à gauche.
Non, il y a un tunnel, tu vois le tunnel là en fait, tu vois. Tu vois le tunnel.
Ouais, j'ai compris.
Visé, tu tires dedans.
Mais je t'explique,
comme ça, ça va pas
je t'explique un truc.
Ouais.
Regarde.
Mais vas-y, je veux.
T'as des yeux.
Ouais.
Là, il y a quoi? Il y a un chemin.
C'est pas
un chemin. Là, il y a un chemin.
Filé, commence pas.
Là, il y a un chemin.
Filé, commence pas.
Donc, si je veux tirer pas là et je tire, fin de
l'histoire. Je l'ai fait en 15 coups dans le tunnel, tu vas faire dans le tunnel.
Non!
Bon, vas-y,
tu l'as fait à gauche!
S'il vous plaît, elle veut la faire à gauche.
C'est quoi son problème?
Mais le problème, c'est qu'il y a des règles. Regarde le parcours, s'il vous plaît. Il y a le tunnel.
Hey, arrête de me faire mal à la tête, s'il te plaît.
J'avoue, elle peut tirer à gauche.
Qu'est-ce que tu racontes, toi aussi?
Elle abuse, là!
Il y a un tunnel, c'est pas pour rien.
Merci.
Il y a des règles, ils vont pas mettre ça.
Mais il y a des règles. Tu tires dans le tunnel, s'il te plaît.
Mais je suis très calme, là. Ouais, je suis
très calme. Tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est bon, je vais.
Mais vas-y, fais-le.
Vas-y, je vais te montrer c'est quoi de jouer au mini-golf. Je vais te montrer c'est quoi. Vas-y, continue.
La tête de ma mère, c'est pas tranquille.
Qu'est-ce que tu as pleuré là? Elle est sérieuse.
Non, plus, ça se fait même pas que t'as.
Mais y'a rien, tout ça, arrête de pleurer.
Et tout le temps, moi je dis.
Mais c'est bon, arrête de pleurer, arrête de prendre la tête. Arrête de pleurer.
C'est vraiment génial, le mini-golf. Est-ce que la scène est improvisée, Céline Sciamma?
Alors, la scène est écrite dans sa situation. Le fait qu'un personnage veut absolument qu'on respecte les règles et un autre veut passer à gauche. Mais évidemment, non. Mais en tout cas, c'est improvisé. Elles ont en charge la dynamique des dialogues, le rythme de la séquence. Et on fait plusieurs prises comme ça. Où on
Combien de prises, par exemple, pour une séquence comme celle-ci?
Oh, pour celle-là, je crois qu'il y en avait 7 ou 8 quand même. Ce qui est pas mal. On est plutôt à 4 ou 5 en moyenne.
Plutôt à 4 ou 5 en moyenne
sur
une moyenne de films.
Sur mes films. Je ne connais pas les pratiques des autres. Chaplin, ça pouvait être jusqu'à 150.
Je ne sais pas, notre réalisateur vient de me poser une question, donc je vais vous la poser. Quelle scène vous avez choisie? Alors la première, la quatrième, la cinquième?
Comment ça? Quelle prise, vous voulez
oui,
dire?
Oui, quelle prise parmi les 6 que vous avez faites?
Il y a du montage, mais il se trouve que là, on est à un moment qui tient assez en plan séquence et je crois que c'est l'avant-dernière. Oui.
Vous avez organisé un vaste casting sauvage pour trouver vos actrices. Comment on s'y prend quand on doit trouver non pas des personnages isolés, mais faire une bande, Céline Sciamma?
Justement, c'est toute la difficulté de ce casting, avec deux exigences, trouver des individualités singulières, des caractères bien trempés.
Très fort, oui.
Et puis former un groupe avec son alchimie, son harmonie, sa circulation, créer de l'amitié. Et donc c'était deux exigences. Il y en avait d'autres, il fallait des filles qui soient capables d'improviser justement, et puis il fallait aussi qu'elles soient capables d'endosser un texte, de se l'approprier, parce que le film est quand même très écrit. Et avec tous ces filtres, on finit par arriver à ces quatre perles.
Il ne fallait pas aller du côté d'acteurs professionnels pour vous, pour ce film-là?
Pas forcément, j'avais pas l'obsession de les trouver dans la rue, j'avais l'obsession de les trouver tout court. On a vraiment cherché partout, on a pu chercher dans les cours de théâtre, dans les associations et puis au hasard de la rue. Il se trouve qu'on en a rencontré un maximum au hasard de la rue et que le hasard de la rue fait bien les choses.
Lucille Como.
Depuis vos débuts, Céline Sciamma, vous parlez d'un film qui vous a beaucoup marqué, c'est La vie ne me fait pas peur de Noémie Lvovsky, qui est un film de 99 sur justement l'éducation sentimentale de 4 jeunes filles. Qu'est-ce que Bande de filles lui doit?
C'est vrai que c'est un film qui a fait irruption dans ma jeunesse cinéphile et qui a été comme un coup de tonnerre parce que c'était une femme qui réalisait qu'il y avait là des jeunes filles qui étaient dans leur énergie et justement dans des scènes de danse, dans des scènes d'intimité et d'amitié. Et que c'était une déflagration pour moi. Et c'est vrai qu'il y a une filiation entre les deux films, justement dans cette idée que regarder les jeunes filles grandir, les regarder s'épanouir dans le collectif, dans l'amitié, c'est du spectacle.
Vous-même, vous avez fait partie d'une bande de filles?
Pas du tout. J'en fais partie maintenant.
Maintenant, bien sûr, grâce au cinéma. Mais une adolescence, pas du tout dans ce cadre-là.
Une adolescence plutôt solitaire dans les salles de cinéma, justement. Et je réussis mieux ma jeunesse maintenant, à 35 ans.
Kaoutar Archi, je crois que vous connaissez un petit peu le cinéma de Céline Sciamma. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque plus particulièrement dans ces films, les deux précédents en tout cas que vous avez dû voir, Tomboy et Naissance des pieuvres?
Ce qui me marque beaucoup, c'est l'attention qui est portée à la sensibilité, en fait. C'est-à-dire à cet ensemble de micro-métamorphoses qui s'opèrent dans l'intimité des personnages. Et puis entre eux, et je trouve ça toujours fascinant de réussir à construire une histoire basée sur ces transformations qui sont quasiment invisibles à l'œil nu, qu'on a tous vécu, dont on est tous... porteur, mais que Céline nous offre, et c'est toujours très, très perturbant de voir ça, au bon sens du terme.
C'est une Siama ?
Oui.
Commentaire de cette lecture ?
Mais c'est une très bonne lecture, et on ne se connaît pas, donc c'est un avis de spectatrice qui me va. C'est le trajet que je souhaite pour le spectateur, un trajet de reconnaissance de ce qu'il a pu traverser, mais aussi d'identification totale, de voyage dans l'altérité, parce que pour moi, c'est ça, le cinéma, c'est aussi c'est vivre des vies qu'on ne vivrait pas et reconnaître la trace de la sienne.
Alors justement, avec cette bande de filles, vous filmez des personnages rares dans le cinéma français, que vous ne filmez d'ailleurs jamais sur un mode naturaliste. La lumière, la couleur sont extrêmement stylisées. Qu'est-ce que ces filles ont apporté à votre cinéma ?
Qu'est-ce qu'elles ont apporté à mon cinéma ? Je crois que ce film-là, si on considère que le geste s'est fait en trois fois ou qu'il y a trilogie, c'est celui qui assume le plus son engagement, justement, du côté de la mise en scène, du côté du plaisir de la mise en scène. C'est celui qui affirme le plus la couleur, la machinerie. En fait, c'est celui qui assume le plus de refuser la frontière qu'il devrait y avoir, qu'on assigne souvent au film dit d'auteur engagé, social, chronique, juste et donc modeste dans la forme ou dans l'économie.
Avec une dimension chaque fois documentaire, par exemple, naturaliste.
Oui, et l'idée que ça peut être un spectacle, qu'il peut y avoir de la tension dramatique, qu'il peut y avoir de l'émotion, qu'on peut convoquer tous les outils du cinéma, la musique, le son, l'image, pour faire fusionner. C'est le film qui prend le plus de plaisir à faire fusionner tous ces ingrédients.
Vous avez travaillé pendant une dizaine de séances avant le tournage avec vos acteurs et vos actrices. Quels exercices vous avez mis en place, justement ?
On était vraiment dans le registre de l'atelier théâtre, où moi-même, d'ailleurs, j'étais membre de l'atelier, moi-même en chaussettes dans une salle polyvalente. Et il s'agit de travailler à la périphérie du film, donc pas du tout de répéter des scènes, mais de se désinhiber, d'apprendre à se connaître, de créer de la circulation entre nous, de la confiance, de créer un passé aussi, de créer des souvenirs déjà à cette bande.
Mais ça passe par quel genre d'exercice ?
Ça passe par... ça passe par danser, ça passe par chanter, ça passe par convoquer des émotions, ça passe par... chacun joue à son tour une séquence où il doit imiter l'autre, où il doit... Voilà, c'est ce genre de...
Et vous êtes partie prenante ou simplement spectatrice de ce qui se passe ?
Non, je suis partie prenante, je suis avec elle au même endroit.
Donc vous dansez, vous chantez ?
J'essaye.
Lucille ?
Vous leur avez fait lire aux quatre filles le scénario. Quels sont les commentaires qu'elles vous ont faits ?
Alors, on l'a lu, et effectivement, on l'a lu tout ensemble. Et la première fois qu'elles l'ont lu, on l'a lu à voix haute, et chacune lisait son rôle. Et moi, j'étais le narrateur. Et elles étaient touchées. Pour moi, c'était une étape de confirmation de leur engagement. Elles avaient toujours le choix d'y aller ou pas. Et c'était assez décisif. Décisif aussi parce que le scénario, je l'avais écrit quand même dans la solitude de l'auteur et que je le confrontais pour la première fois à ces jeunes filles qu'il était censé représenter. Et elles ont été enthousiastes.
Est-ce que vous avez changé des éléments suite à leur lecture, justement ? Des phrases, des mots, des situations ?
Sur le plateau, oui. À cette étape-là, non, parce qu'elles n'avaient pas d'opinion sur les péripéties. Elles n'avaient rien à redire là-dessus, à vrai dire. Mais évidemment, sur le plateau, ensuite, au cœur des scènes, on a pu changer des choses, trouver des choses ensemble. Ça, c'est le travail, évidemment, qu'on fait avec ces comédiens, toujours.
J'ai pu lire que vous parlez beaucoup à vos actrices pendant les prises. Oui. Pendant les prises, c'est-à-dire pendant qu'elles tournent. On a reçu ici, il y a quelques semaines, Bruno Dumont qui dit que pour Petit Quinquin, il avait collé une oreillette à son personnage principal, un acteur non professionnel, lui aussi. Donc il lui soufflait ses répliques et comme l'acteur ne comprenait pas véritablement ce que l'autre lui disait, ça créait des décalages entre ce qu'il racontait et ce qu'il avait entendu à l'oreillette. Qu'est-ce que vous leur disiez ?
Moi, c'est plus une question de créer le rythme de la scène. Ça intervient moins dans les scènes de groupe, où là, j'ai tendance à leur parler entre les prises, notamment parce que ce sont des scènes très dialoguées, mais notamment dans les scènes plus intimes, ou les scènes où l'héroïne est seule, je la dirige beaucoup à la voix, en live, comme ça, en étant très près d'elle. C'est des questions de rythme et de chorégraphie, en fait.
C'est-à-dire
ça vous semble pas...
mais de rythme et de chorégraphie.
Oui, c'est-à-dire, je lui dis, baisse les yeux, relève les yeux. Voilà, je cherche l'image et je cherche la chorégraphie de son corps dans le cadre. Et parfois, ce sont des choses qui vont se répéter, qui sont écrites. Mais parfois, ça va être d'autres choses parce que je vais chercher à la surprendre. Et je l'ai choisie aussi pour ça. Kharidja Touré, c'est parce qu'elle avait une écoute incroyable. Et mes héroïnes, je les dirige beaucoup comme ça et je les choisis pour leur capacité à se concentrer, à m'écouter toujours et à jouer en même temps. Et c'est aussi parce que je travaille avec des actrices qui ne sont pas des actrices, qui le deviennent au cours du film. Il y a une grande responsabilité. Il faut être avec elles tout le temps. En fait. Il ne faut pas les lâcher.
Lucille Comeau.
Alors justement, ce personnage principal, Vic, il est de tous les plans du film, sans exception. Est-ce que c'était prévu depuis le début ?
Oui, c'est tout le projet. Quand bien même le film s'appelle « Bande de filles » et convoque le groupe et l'amitié, on suit le destin d'une héroïne, une héroïne romantique d'aujourd'hui. Elle est le point de vue, on vit les choses à travers elle. Et c'est aussi une façon de proposer un trajet mental, un trajet sensuel au personnage. Ce qu'elle ne regarde pas est hors champ, ce dont elle ne veut pas entendre parler, ce qui ne concerne pas sa sphère, comme par exemple sa mère, toutes ces choses, on les écarte, on ne vit que ce qu'elle vit, on est dans ses pulsations.
Alors, vous avez tourné tous les intérieurs en studio, notamment l'appartement familial. Donc, on voit bien que vous vous éloignez du naturalisme, s'il fallait encore le prouver. Qu'est-ce que ça vous permettait de faire qu'un décor authentique ne vous aurait pas permis, Céline Sciamma ?
Alors, ça permet du recul. Ça permet l'espace de la mise en scène. Soudainement, on peut poser un travelling dans une cuisine et reculer autant qu'on veut. Ça permet de faire un plan large dans une chambre avec deux sœurs, chacune allongée sur leur lit. Ça permet l'espace de la mise en scène. Et donc, de ne pas filmer les choses comme vous l'impose un mur. Il n'y a pas de mur. Ça permet aussi l'intervention sur les décors en termes de nuanciers de couleurs. Les murs, la moindre couleur de mur est choisie, le moindre accessoire. Et donc, il y a un travail... avec le chef décorateur qui est comme ça très dans une déclinaison de couleurs qui permet le nuancier du film.
À propos de couleurs, justement,
vous écrivez, je crois, les couleurs dès le scénario. Pour Bande de filles, c'est le bleu qui est omniprésent. C'était déjà le cas dans vos films précédents. Dans les costumes, sur les murs, vous le disiez, dans la lumière aussi. Est-ce que cette couleur, elle s'est imposée depuis le début ?
Cette couleur revient sans cesse et je devrais sans doute travailler à répondre à cette question parce que cette question revient aussi souvent... Moi, cette couleur, j'avoue que j'y retourne à chaque fois avec l'appétit de la première fois, comme si je ne l'avais jamais fait. Et à vrai dire, je pense que c'est la couleur qui me permet de passer justement du naturalisme à des choses plus oniriques. Elle est comme ça le fil conducteur et soudainement, elle est là dans les costumes, elle est là sur les murs et puis soudainement, elle envahit toute la pièce dans une chambre d'hôtel alors que les filles chantent Rihanna et soudainement, on bascule dans l'onirisme et je crois que cette couleur motorise ses glissades.
Alors encore quelque chose sur le format, parce que vous avez tourné en scope, c'est un format large qui est souvent utilisé pour filmer des extérieurs, des paysages, c'est le format du western. Vous tournez plutôt ici des plans rapprochés, beaucoup d'intérieurs et parfois dans des lieux étroits. Donc comme la petite chambre d'hôtel, même si on sait que justement elle a été recomposée dans un studio. Qu'est-ce que ça vous permettait de faire, ce format-là précisément du scope ?
Je l'ai choisi pour pouvoir filmer le groupe, pour pouvoir filmer les quatre personnages ensemble sans être très loin, quoi, de pouvoir faire un plan moyen avec quatre personnages. C'est vraiment pour ça. C'était pas dans une dynamique de western urbain qu'on peut parfois comme ça associer aux films qui filment la banlieue. C'était vraiment pour faire le portrait d'un groupe.
Alors encore une question sur la lumière très importante dans vos films. Ici, une lumière de nuit qui commence, par exemple, ça s'ouvre sur une scène de football américain féminin. Il y a une chose qui m'a étonné, c'est la référence à 24 heures chrono, la série, que votre chef-op Christelle Fournier vous a donnée. Ça fonctionne comment, cette référence à 24 heures chrono ?
C'est une référence qu'on avait beaucoup sur Naissance des pieuvres. Sur les extérieurs, dans 24 heures chrono, il y a un mélange de sodium et de tungstène sur les éclairages publics. Soit les éclairages publics ont une tendance à être verts, soit ils ont une tendance à être jaunes, orange, dans la vie, quoi. Et dans 24 heures chrono, ils sont souvent mélangés. Voilà, par exemple, on peut convoquer ce genre de référence pour prendre ses décisions et appeler EDF.
C'est ce que vous avez fait ?
Oui, sur ce film-là, je crois que sur les extérieurs, on n'a pas joué ce mélange-là. Mais oui, c'est ce qu'on fait, bien sûr.
Cécile.
La musique pour vous est plus qu'un rythme, surtout dans ce film-là, c'est une vraie structure, c'est elle qui sépare le film en chapitres avec des fondus en noir. On l'entend derrière nous, on en écoute un extrait. Qu'est-ce que vous aviez demandé donc à Jean-Baptiste Delobier, alias Parawan, qu'on entend là, qui signe toutes vos bandes originales pour ce film-là ?
Je lui ai dit que j'avais envie d'un thème, de la contrainte, du brief du thème qui est vraiment la musique de cinéma, quoi, le thème qui revient, qui grandit, qui s'épanouit, qui se décline en harmonie, en arrangement. Et par ailleurs, il y avait déjà cette idée du chapitrage et de quasiment d'effet de générique au sein du film où il y a 10 secondes de noir comme ça. Et donc la musique allait intervenir à ce moment-là, monter en puissance sur ce noir, ce qui est l'inverse d'une contrainte de cinéma où généralement la musique est censée soutenir des images. Et là, elle allait s'épanouir. Dans le noir, c'était nouveau.
Pourquoi vous vous êtes imposé justement cette construction presque feuilletonnante, c'est-à-dire donc en chapitrage ?
Parce que ça me permettait à la fois d'embrasser la chronique dans chaque épisode, on est comme ça dans un précipité de présent, et en même temps, dans l'accumulation des épisodes, avec de fortes ellipses, de constituer comme ça un destin romanesque. Je pensais aussi à la série télé et aux effets du feuilleton. La série télé, c'est vraiment le lieu de... Autant le cinéma propose des histoires sentimentales, amoureuses. Une heure et demie, c'est une histoire d'amour. Mmh. Autant une série télé, c'est une histoire d'amitié. D'ailleurs, les gens ne veulent pas du tout voir un film d'une heure et demie sur un salaud, mais par contre, ils veulent bien voir 12 heures d'House of Cards. Vous voyez ? Et donc, la série télé, c'est l'amitié pour le personnage. Et il y a comme ça, dans cet effet d'épisode, quelque chose qui se produit.
Vous auriez un projet de série télévision ?
Absolument, j'adorerais faire une série télé.
On vous l'a proposé, vous avez des projets ?
Je vais toujours voir les chaînes entre deux films, et je tente ma chance, je le ferai à nouveau.
Parce que vous avez travaillé comme scénariste, hein, à un moment donné sur Les Revenants, la série de Canal+.
Oui,
pourquoi d'ailleurs avoir abandonné le projet à un certain moment, Céline Sciamma ?
Oh, parce qu'il s'agissait soit de l'endosser jusqu'au bout, soit d'avoir fait mon travail de scénariste. Et c'est vrai que si j'ai envie de signer une série, j'ai envie de la signer.
Est-ce qu'il y avait quelque chose dans cette série, dans son déroulé, dans son développement, qui ne vous correspondait plus ?
Oui, peut-être. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire un soap fantastique. C'était vraiment les destinées sentimentales, les fantômes de l'amour. Il y avait une dynamique de polar, de serial killer qui m'intéressait moins. Mais je ne crois pas que ce soit lié à ça. J'avais très envie de faire Tomboy et d'ailleurs, je l'ai tourné 3 mois après.
Alors, il y a une scène qui est le noyau du film Bande de filles. Les 4 filles sont dans une chambre d'hôtel et elles dansent et elles chantent sur Diamonds de Rihanna, extrait. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Vous avez filmé l'intégralité de la chanson. Presque comme une sorte de plan-séquence. Ce n'est pas véritablement le cas. Je crois que ce n'est pas un plan-séquence.
Non, c'est découpé.
Vous avez choisi 7 chansons en particulier. Ce n'est pas rien de s'éclater sur Rihanna. Lucille Comeau, qui est à côté de moi, qui passe son temps à ça, ne me contredira pas. Comment s'est fait le choix de cette chanson, précisément ?
Ah, il s'est imposé dès le départ. J'ai écrit la séquence pour la chanson, dans l'espoir fou d'arriver à l'obtenir. Mais pour moi, la chanson avait la vertu d'être à la fois le tube du moment, quand j'ai écrit le scénario, de surcroît, et en même temps, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du classique instantané. Il y avait aussi un effet d'hymne générationnel. Et ces paroles, dans la bouche de ces jeunes filles, la chanson raconte plutôt une rencontre sentimentale, mais elle rencontre une élection et comment on est plus fort ensemble, comment on est plus beau ensemble, comment ça nous met au firmament. Le duo ou le trio ou le collectif et je trouvais que ça allait bien.
Et là encore, le projet était de filmer l'intégralité de la chanson, de faire presque une sorte de clip à l'intérieur même du film.
Oui, l'idée c'était de filmer l'intégralité de la chanson, mais moins comme un clip que comme un moment de passage du récit décisif, quoi. C'est une séquence qui est très narrative, c'est vraiment comment l'héroïne observe le spectacle de l'amitié des autres, comment elle décide de rentrer dans la danse, comment finalement elle donne de la voix, comment elle-même devient iconique. Donc c'est vraiment la chorégraphie de la naissance d'une amitié. C'est pas une coquetterie d'illustrer la chanson de Rihanna, c'est vraiment un passage décisif pour les personnages et pour les spectateurs qui les aimeront toujours ensuite.
Quelle est la musique que vous écoutez précisément ?
Alors ça dépend, quand ça dépend des moments. Précisément, je serais incapable de répondre à cette question.
Alors j'enlève l'adverbe. Quelle est la musique que vous écoutez ?
Écoutez, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute ? Moi, je suis assez obsessionnelle, donc j'ai des phases. En ce moment, j'écoute The Do ou j'écoute Algi. J'ai tendance à suivre l'actualité aussi. Et j'écoute beaucoup la dernière chanson de Sia, Chandelier, qui a écrit ouais. Diamonds.
Kaoutar Archie, vous écoutez quoi ? On parlera tout à l'heure du rythme qui est à l'œuvre dans votre roman.
En ce moment, j'écoute une chanteuse américaine qui s'appelle Leila James. Et le titre, c'est « Tell me you love me ». Très belle chanson.
Et plus généralement, il y a une scène musicale que vous écoutez plus précisément ? Ce « précisément », je vais l'enlever. Ça devient un tic.
J'écoute depuis l'âge de 15 ans à peu près du rap français. Je suis très attachée à cette musique-là. Et c'est une musique qui m'a accompagnée dans chacune des étapes de ma vie, en fait. Donc c'est une musique qui, pour moi, est... omniprésente, même si parfois je peux lui faire quelques infidélités avec quelques chanteuses américaines.
Et quand vous écrivez, vous écoutez de la musique en même temps ou c'est une activité silencieuse ?
Non, c'est plutôt une activité silencieuse. Je vais plutôt écouter de la musique en refermant l'ordinateur et en sortant, en allant boire un café avec un casque sur les oreilles pour essayer d'oublier, même si c'est inoubliable, mais... Voilà, pour essayer d'oublier les heures de travail.
Lucille.
Alors, on reste en musique. On demande tous les jours maintenant à nos invités de nous apporter un son qui les a marqués. Et vous, vous avez choisi ça, Céline Sciamma. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory.
Qu'est-ce que représente ce son pour vous, Céline Sciamma ? Abba.
J'ai une passion pour Abba. Mais Abba, c'est la musique que j'écoute quand j'écris. Généralement, j'ai une chanson d'Abba par film. Cette chanson, par ailleurs, c'est une chanson préférée de Françoise Hardy. C'est quand même une référence. Mais parce qu'il y a dans Abba des paroles extrêmement tristes et tout le monde danse dessus, c'est dansant. Et en fait, pour moi, c'est un programme esthétique, stylistique, politique auquel j'aimerais me tenir. C'est-à-dire, oui, faire danser les gens... sur des histoires tristes.
Pour Tomboy, quel était le morceau d'Abba que vous écoutiez ?
Lay all your love on me.
Et pour Naissance des pieuvres ?
J'ai oublié. Dancing Queen, peut-être.
Très bien, parfait. Plateau Légende avec vous, Kaoutar Archie, écrivaine. Vous publiez en cette rentrée votre troisième roman, À l'origine, notre père obscur, chez Actes Sud. C'est le récit à la première personne d'une fillette qui grandit auprès de sa mère dans la maison des femmes, dont on découvre au fur et à mesure que c'est un lieu où la société patriarcale parque les femmes qui ont fauté. Toute l'histoire est donc celle d'une émancipation qui passe par les retrouvailles avec le père, mais aussi par une désaffiliation radicale. D'abord, un mot sur l'architecture du livre, extrêmement structurée. 15 chapitres, le tout encadré par deux textes en italique à la troisième personne cette fois, qui évoquent l'arrachement et puis cette fameuse désaffiliation. Vous avez commencé l'écriture par ces chapitres-là ?
Non, pas du tout. La structure et la forme du texte est vraiment ce qui arrive presque en dernier, c'est-à-dire quand je sais de quoi il est question, quand je sais à quel personnage j'ai affaire, quand l'histoire est presque... écrite, je dis presque parce qu'il y a toujours des formes de réécriture qui sont nécessaires. Et à partir de là, c'est comme si, pour moi en tout cas, je le vis comme ça, c'est comme si le livre, le manuscrit, les pages d'ordinateur prenaient relief en 3D en fait, et qu'émergeait de cette surface plane une architecture particulière qui, dans mon cas, j'essaie toujours de faire en sorte que la forme ne soit pas qu'un ornement ou qu'un décor, mais que la forme dise quelque chose du fond, en fait.
Et ici, de l'emmurement, on en parlera tout à l'heure.
Et ici, exactement.
Lucille.
Alors la désaffiliation, j'y reviens, c'est un concept forgé par le sociologue Robert Castel qu'il définit ainsi. Le décrochage par rapport aux régulations à travers lesquelles la vie sociale se reproduit et se reconduit. Je sais que vous avez mené en partie des études de sociologie. Alors la sociologie se nourrit de contexte et ici, dans le roman, à l'origine de Notre Père Obscur, aucune indication, ni temporelle ni géographique. On ne sait rien de la ville où vit le père, par exemple, qui est seulement indiqué par une initiale, S. Qu'est-ce qui rendait cette abstraction nécessaire pour ce roman-là ?
J'ai toujours beaucoup de difficultés dans mes romans à être réaliste, en fait. Et à un moment donné, je lutte pour réussir à produire quelque chose de réel, quelque chose d'identifiable. Et à un moment donné, j'arrête de lutter. Et je me dis que si mon texte n'est pas réaliste, mon texte sera ce qu'il est. Et ça vient de là, je crois, de cette difficulté à gérer le temps présent et de ma volonté de raconter quelque chose qui s'élève un tout petit peu au-dessus de ce que l'on vit comme ça de manière très, très, très immédiate.
Dans les précédents romans Zone cinglée et L'ampleur du saccage, le contexte était clairement arabo-musulman. Là, aucun signe dans ce sens. Il fallait vous-même vous émanciper de ça.
C'est une question qui est très intéressante.
Kautararchi.
Oui, c'est une question qui est très intéressante. Je pense que j'avais un travail à faire moi-même sur ce dont j'étais héritière, en fait. Mes premiers romans, Zone cinglée, L'ampleur du saccage, par exemple, étaient des textes que j'écrivais en relisant les romans de Kateb Yassine et de Rachid Boujidra, qui sont pour moi deux figures tutélaires en littérature assez fondamentales. Et c'est vrai que pour ce troisième livre-là, je me suis un peu éloignée de ces figures-là. Elles sont en moi, elles existent en moi, elles vivent en moi, mais c'était aussi tout un travail de réussir à dire quelque chose qui ne soit pas simplement de l'ordre culturel, ethnique, voire religieux, mais quelque chose qui soit en fait simplement de l'ordre de l'humanité ou de notre quête d'humanité.
C'est la première fois, parce que vous parlez de deux écrivains hommes qui étaient comme ça le sous-texte des précédents romans. Ici, c'est la première fois que vous écrivez au jeu et le jeu est féminin. Et vous disiez à propos de votre premier roman, Zone cinglée, que vous aviez plus de facilité à écrire au masculin. Qu'est-ce qui a changé en trois romans ?
J'ai grandi, j'ai vécu. Et je crois effectivement que pour mes deux premiers romans, c'était une sorte de protection que je mettais en place entre moi et le fait de publier des livres. Et donc, du coup, j'avais une facilité, mais c'était une facilité qui était nourrie aussi et puis qui l'est toujours par une profonde tendresse à l'égard des garçons, à l'égard des bandes de garçons, à l'égard de... qui sont parfois très facilement stigmatisés ou très facilement renvoyés à des clichés. Donc je pense qu'il a fallu que je travaille et il a fallu du temps aussi pour que je parvienne à prendre à bras le corps et a fortiori dans le cadre d'un roman la question de la condition féminine ou en tout cas la question ne serait-ce que d'incarner un personnage féminin dans le texte.
Lucille ?
Vous, Céline Sciamma, j'avais lu que vous, pour le film Bande de filles, vous aviez sciemment fait de vos personnages masculins des clichés de personnages masculins. Pourquoi c'était nécessaire ?
Pas des clichés. Je n'en fais pas des personnages, en fait. Je ne les regarde pas comme des personnages. J'en fais des figures iconiques, au même titre que bien souvent les femmes dans les films sont des figures iconiques. La femme fatale, une figure iconique. Bon, bah voilà.
Là, donc là, le frère méchant.
Oui. Et on ne rentre pas dans leurs états d'âme, on ne rentre pas dans leurs dilemmes. Il y a évidemment. Le film questionne les systèmes de domination. Comment on est dominant ? Il se trouve que les garçons héritent de ce système. Ils en sont victimes aussi, les pauvres. Enfin, en tout cas, ils doivent. Ils sont garants d'une respectabilité. Ils sont les gardiens du temple. Mais moi, j'ai préféré déplier la naissance d'un système de domination au sein même de mon personnage féminin. Ce qui est une façon aussi de décharger les garçons d'une forme de responsabilité. Alors, en devenant devenant puissante, elle-même devient censeur de sa propre sœur à un moment. Et du coup, elle devient elle-même... Oui, en devenant dominant, en devenant puissante, elle devient dominante. Mais les garçons, oui, sont des icônes, pour une fois.
Kaoutar Archi, dans les précédents romans, il y avait déjà à l'origine une terrible répression sexuelle qui bouleverse la vie de vos héros. Est-ce que toute fiction, pour vous, naît de ce déséquilibre fondamental entre les genres ?
En tout cas, tous mes romans naissent toujours de la volonté, à un moment donné, de décrire et surtout de donner la possibilité à un personnage, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin, de combler ce vide d'amour et ce vide affectif et cette frustration sexuelle qui, à un moment donné, dans son parcours ou dans le parcours d'un personnage proche de lui, le ronge et le ramène à un état d'animalité, de bestialité, en fait. Et mes romans partent toujours de ces deux idées-là, de ces deux expressions-là, c'est-à-dire l'amour et son absence, en fait. Et ça me permet toujours de réfléchir, et c'est vraiment à partir de ces deux notions-là, d'un l'excès, le défaut, la frustration sexuelle, la frustration affective, la misère, la difficulté à aller vers l'autre, la difficulté des hommes à aller vers les femmes, dans mes romans, souvent autrement qu'en les payant, la difficulté des femmes aussi à vivre leurs histoires d'amour avec l'homme ou les hommes de leur choix. Et c'est vrai que je suis souvent intriguée par ces systèmes de domination qui se mettent en place et qui font souvent que mes personnages sont à la fois victimes de cette domination et en même temps, cette domination existe aussi parce que d'une certaine manière, ils en sont complices. Ou en tout cas, il y a un travail de perpétuation des schémas patriarcaux qui sont réalisés. Et effectivement, dans le dernier roman, À l'origine de notre père obscur, toute la problématique de cette jeune fille, à un moment donné, c'est de voir qu'elle est une héritière. Elle est l'héritière d'un héritage particulier. Et elle va avoir à faire ce choix décisif, à savoir est-ce qu'elle demeure une héritière et perpétuer ainsi ce dont elle est par ailleurs victime, ou au contraire faire le choix de se lever, d'ouvrir la porte de cette maison et de sortir, et à partir de là de se voir dépositaire d'un libre arbitre et dépositaire aussi d'une puissance de transformation de sa propre destinée.
Et c'est en cela que le roman est architecturé en deux parties. Première partie, la maison des femmes. Deuxième partie, la maison du père, et entre les deux, le moment de la mort de la mère avec le départ et le possible enterrement. Lucille.
Chaque chapitre commence par une citation en exergue de l'Ancien Testament, de la Genèse, en gros, au départ d'Abraham. De fait, vous superposez deux récits, celui de votre livre et celui justement de l'Ancien Testament. Comment est-ce que vous avez pensé le jeu d'écho entre les deux ?
C'est quelque chose qui est venu très tardivement, en fait. Il se trouve que par ailleurs, j'avais on va appeler ça un devoir, un article à rédiger par rapport à la problématique biblique et la Genèse en particulier. Par ailleurs, c'est un texte que je connais bien, que je lisais souvent et que je continue de lire aujourd'hui. Et à un moment donné, il a été question de réfléchir à la structure. Et je crois qu'en réfléchissant sur ce texte-là, sur le texte biblique, je continuais de le lire, mais avec... comme inscrit sur ma rétine, mon propre texte, en fait. Et il y avait cet écho, effectivement, comme vous dites, ce jeu qui est devenu assez, assez intriguant entre une littérature sacrée qui incarne la vérité et une littérature profane qui naît de ma subjectivité, qui naît de mon expérience. Et c'est à partir de là où, effectivement, je me suis dit que peut-être il était intéressant de donner comme perspective aussi à ce texte-là la problématique de la loi divine qui vient ici s'opposer à la loi humaine que va tenter de construire, de forger cette jeune femme.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son. Et voici ce que vous avez apporté. C'est assez intriguant parce que Judith Broust, qui a signé un autre livre sur la figure de Frankenstein, ou plutôt sur la figure de Percy Shelley et de Mary Shelley, nous avait apporté. C'était le même. On écoute.
Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. mais que moi je m'en occupe infiniment moins que des mots. Je disais que, vous savez, que l'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte là. Maintenant j'en suis sûre. Et que par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et je parle de la crête des mots. C'est une écriture qui courrait sur la crête pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout de suite. Et c'est affreux quelquefois.
Kaoutar Archi, un commentaire. Identification de ce son.
C'est Marguerite Duras, évidemment. Un commentaire. Non, c'est... Je crois que c'est important quand on a l'aspiration d'écrire, ou en tout cas de continuer à le faire encore pendant un certain nombre d'années, d'avoir des références solides. Et moi, pour ma part, j'aime être accompagnée par des écrivains que j'aime, que j'admire. Je parlais avant de Kateb Yassin, Rachid Boujedra. Je crois que Marguerite Duras fait partie de mon panthéon intime et qu'elle incarne quelque chose avec lequel d'ailleurs on peut dialoguer. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce personnage-là, c'est que c'est un personnage qui est tellement fort, qui est tellement radical, que sa radicalité vous confronte en vérité à vous-même et vous ramène à votre propre définition de l'écriture et au final à ce que signifie le fait de donner à sa vie, à sa présence sur Terre, ce sens-là, cette activité-là, aujourd'hui.
Juste une question par rapport à Marguerite Duras qui parle d'écriture courante, qui court comme ça sur la crête des mots. Je me demandais si vous lui deviez quelque chose, par exemple, dans la construction de vos phrases, souvent nominales, comme des didascalies, par exemple.
L'Amant, c'est un livre pour moi qui est assez fondamental. Et je crois que ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'est à un moment donné, dans le passage un peu avant, peut-être un peu après, elle évoque la question du style. C'est quelque chose qui est toujours très intriguant et elle décide de répondre à la question en disant que le style, c'est quelque chose dont elle ne s'occupe pas. Et je crois qu'à un moment donné, j'essaie de m'en occuper, mais avec une certaine distance. J'essaye de me dire que mon personnage, étant à ce moment-là mon meilleur ami, est face à moi et qu'il me parle. Et j'essaye de me souvenir de la manière dont il parle, de la manière dont il s'exprime. Et donc, j'invente comme ça une forme de dictée. Il me dicte ce qu'il me dirait s'il était face à moi, pas très loin.
Lucille.
Vous venez de soutenir, je crois que c'est vraiment tout frais, il y a quelques semaines, une thèse sur les modalités de consécration littéraire des écrivains algériens. C'était quels écrivains en particulier et est-ce qu'il fallait leur rendre justice?
J'ai travaillé sur Kateb Yassin et sur Assia Djebbar. Et en
comme
fait,
par hasard.
Il était question de comprendre comment des individus qui étaient des auteurs dominés dans les années 50, entre 60 ans, 50 ans, 70 ans plus tard, à l'Académie française pour Assia Djebbar et au répertoire de la comédie pour Kateb Yassin. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, à un moment donné, des individus réussissent à lever une certaine forme de détermination et à contredire un système politique qui les limite dans leurs possibilités de création. Mais je suis assez peu militante. Donc, il n'était vraiment pas question de... En tout cas, ce travail-là n'était un travail universitaire, donc le militantisme a assez peu de place dans ces histoires-là. Mais il était vraiment question de mettre à jour un processus et de s'intéresser à la manière dont, à la domination, répondent certains comportements de résistance.
Le récit emprunte au mythe, il y a l'adultère, l'inceste, la trahison intrafamiliale avec des accents de tragédie, jusque dans les adresses de la narratrice au lecteur avec des « vous savez » qui les prennent à partie. Qu'est-ce que cela vous permet, ces adresses? Il y a presque une dimension, on va dire, théâtrale, notamment avec des didascalies, avec ces formes...
L'histoire de ce dernier roman, comme vous l'avez dit avant, est assez particulière. C'est vraiment un parcours initiatique. Et ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir créer une proximité entre le lecteur et le personnage qui soit la plus forte possible, en fait. Et presque même si le lecteur n'est jamais totalement heureux de cela au début et que finalement il s'en remet très bien, plus ou moins bien, à la fin, réussir à faire que ce personnage trouve la force de tirer vers lui le lecteur dans cette maison. Que le lecteur, ne serait-ce que le temps de quelques pages, vive avec lui dans cette salle commune, dans cette cuisine, dans cette salle de bain, et qu'il intègre cette communauté féminine qui est marginalisée. Et effectivement, le fait de m'adresser directement au lecteur avec des « vous savez », ça rappelle au lecteur qu'il est en train de lire quelque chose qui potentiellement le concerne. C'est l'attention qui est portée à la sensibilité, en fait.
Ça passe par danser, ça passe par chanter, ça passe par convoquer des émotions.
Et à un moment donné, j'arrête de lutter.
Oui.
Merci à nos invités. Céline Sciamma, Bande de filles, ça sortira en salle le 22 octobre. Kaoutar Archi, à l'origine, notre père obscur, apparu aux éditions Actes Sud. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde? Où tout le monde se tutoie? Où tout le monde ment? Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Mais votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable! Je méprise le cinéma!
Écoutez, mon Dieu, ça suffit comme ça! Emmenez votre âme se calmer ailleurs!
Ah, c'est dans la nuit américaine. Demain, ce sera une émission spéciale François Truffaut avec la comédienne Brigitte Fossé et la monteuse de François Truffaut, Martine Barraquet. Une petite désannonce, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Comeau, Adrien Azelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture Zoé Sfez, à la technique Jean-Guilain Meige, Bruno Gagnère-Fontanil et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.